Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Alors, ceux qui nous rejoignent l'apprendront, ceux qui nous sont fidèles depuis quelque temps déjà s'en délecteront, j'espère, mais j'apprends. Je rappelle donc que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale ces petites images qui bougent, mais dans les grandes salles et sur de grands écrans depuis déjà, eh bien, un peu plus d'un siècle, je n'étais même pas né, c'est vous dire comme ça remonte loin. Ce jour, eh bien, nous ferons une émission biographique consacrée à un grand réalisateur américain disparu en 2005 et né en 1914, c'est dire qu'il a parcouru presque un siècle de cinéma, un réalisateur américain nommé Robert Wise, qui est plutôt connu pour quelques super productions musicales, justement comme West Side Story, sur lequel nous reviendrons, et la sublimissime Mélodie du bonheur, enfin pour les amateurs en tout cas, avec la sublimissime pour tout le monde Julie Andrews dans le rôle principal, deux comédies musicales qui restent encore aujourd'hui parmi les plus gros succès financiers du cinéma américain dans un pays où, on le sait, c'est avant tout l'argent qui compte. Mais Robert Wise a su tourner tout au long d'une carrière à la fois longue et très hétérogène dans les thèmes abordés, quelques films marquants que nous allons aborder assez rapidement de manière musicale quand l'occasion s'en présentera. Quelques mots d'abord sur les origines du monsieur né à Winchester dans l'Indiana le 10 septembre 1914 et qui, à 20 ans même pas, se retrouve dans l'industrie cinématographique à la RKO pour devenir dans les années 30 l'un des monteurs les plus réputés de l'époque. Et oui, le montage est aussi un art du cinéma sur lequel on n'est pas toujours assez disert, une façon souterraine mais souvent décisive, soit de magnifier les plans tournés par le réalisateur, soit parfois, et il faut bien l'avouer, les massacrer. Ce fut le cas, et c'est pour ça que je le mentionne pour Robert Wise, puisque lui qui collabora en 1940 sur le Citizen Kane d'Orson Welles, sur lequel il n'est pas besoin de revenir, l'un des 10 plus grands films sans doute de l'histoire du cinéma, eh bien c'est lui qu'on accusa, c'est sa légende noire en tout cas, en 1942, d'avoir massacré au montage le second film du dit Orson Welles, en l'espèce La Splendeur des Ambers, que les producteurs jugeaient qui trop long, qui trop ennuyeux et qui donc au grand courroux du dit Wells, eh bien fut, on va dire, amélioré commercialement par Robert Wise. Ensuite, pour ne pas être trop bavard, eh bien, le monsieur commença dès 1944 une carrière, cette fois de réalisateur, avec le délicieux The Curse of the Cat People, la malédiction des hommes-chats en français, qui était, mais oui, les plus cinéphiles s'en reviennent, la suite de Cat People, la féline tournée 2 ans auparavant par Jacques Tourneur. Et ensuite, eh bien, il enchaîna des films de tout genre avant, et nous allons écouter un large extrait de la bande originale de ce film, de s'intéresser à la science-fiction qui, dans les années 50, soucoupe volante et guerre froide aidant, connaissait un âge d'or tout à fait bienvenu. Alors, les effets spéciaux nous en paraissent aujourd'hui bien naïfs, mais les histoires, elles, étaient peut-être moins naïves que celles des films dont aujourd'hui on se félicite de la qualité de leurs effets spéciaux. C'était le cas du Jour où la Terre s'arrêta, un film tourné donc par Robert Wise en 1951, en anglais. En américain, ça s'appelait The Day the Earth Stood Still. Je vous dirai quelques mots de ce film, mais nous allons avant tout en écouter un large extrait. Alors la bande originale, je le mentionne pour les amateurs, après tout nous sommes là, est signée de celui qui fut l'un des compositeurs fétiches d'Orson Welles, celui qui composa la musique de Citizen Kane, mais aussi celle de La Splendeur des Amberson déjà signalée, en l'espèce le grand, l'immantissime, quoique ténébreux, Bernard Herrmann donc. Un extrait de la bande originale de ce film, Le jour où la Terre s'arrêta, dans 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà un large extrait, le générique en fait, de la bande originale du jour où la Terre s'arrêta, un film de Robert Wise tourné en 1951, une musique de Bernard Herrmann pour un film qui racontait l'atterrissage à Washington, bien évidemment, où atterrissent les soucoupes volantes, si ce n'est à Washington, d'une soucoupe volante de laquelle sortait un robot absolument magnifique et un homme qui ne l'était pas moins pour nous avertir, eh bien, ma foi, que les autres espèces du système solaire, ou plutôt de la galaxie, n'étaient pas très contente de nous et que si ça ne s'améliorait pas, eh bien, on détruirait la planète. Vous vous en doutez, tout ça finit plutôt bien, mais le message, quoique naïf, était quand même plutôt pertinent et largement soutenu par une interprétation sans faille dans laquelle on retrouverait Patricia Neal, une délicieuse actrice trop tôt disparue, l'impressionnant Michael Rennie, que sauf erreur de ma part, on retrouva de quelques années plus tard dans un certain nombre d'autres films de science-fiction et surtout un robot absolument magnifique et qui, eh bien, ma foi, sous les ordres du dénommé Klaatu, j'ai oublié de le préciser, c'était le nom de l'extraterrestre qui débarquait sur notre planète, eh bien, le robot était parfois plutôt méchant. Et alors, on se souviendra ou non, c'est là qu'on fera un tri sur l'âge de la célèbre réplique Klaatu Barada Nictum, dont peut-être certains ou certaines se souviennent. Ma foi, pour les autres, je les invite à découvrir. Je sais, c'est 1951. Je sais, c'est en noir et blanc. Je sais, les effets spéciaux ne valent pas ceux d'Independence Day. Mais par contre, le scénario était bien meilleur. Nous évoquons donc la carrière de Robert Wise et nous allons continuer une évocation assez large, puisque dans les années qui viennent, je feuillette distraitement la filmographie du monsieur. Dans les années qui suivirent, pardonnez-moi, le jour où la Terre s'arrêta, on le retrouva avec des films de guerre comme Les Rats du désert, The Desert Rats, tourné en 1953, avec un péplum en 1955, Hélène de Troie, Helen of Troy, avec un western en 1958, La Loi de la Prairie, Tribute to a Bad Man, c'était beaucoup plus joli en américain, avant, en 1959, un film qui reste certainement pour les cinéphiles le plus intéressant du monsieur, Le Coup de l'Escalier, Odds Against Tomorrow, un peu inconnu, mais justement, c'est ça qui fait le charme pour les cinéphiles, les bons films que seuls eux connaissent. Mais c'est en 1961 que la carrière de Robert Wise connut un tournant dont il ne se remit pas, en tout cas qui l'amena sur des rails, qu'il n'a quitta plus ensuite, puisque c'est lui qui fut chargé en 1961 de porter à l'écran ce qui avait été certainement l'un des plus grands succès de la comédie musicale américaine de tous les temps, le fameux White Side Story, dans lequel ce génie qu'était Leonard Bernstein transposait à New York l'histoire bien connue de Roméo et Juliette. Roméo s'appelait en l'espèce Tony et Juliette s'appelait Maria. Maria était jouée par Natalie Wood, qui connut ensuite une grande carrière. Tony par Richard Beimer, ma foi, dont on n'a plus beaucoup entendu parler. Le tout était bien évidemment sur une musique de Leonard Bernstein. La chorégraphie était de Jerome Robbins. Et évidemment, c'était un succès attendu. Et évidemment, ce fut un succès avéré, puisque cette année-là, West Side Story remporta pas moins de 10 Oscars, dont ceux de la meilleure réalisation, du meilleur film, du meilleur acteur de second plan, de la meilleure actrice de second plan, Georges Takiris et Rita Moreno, respectivement, de la meilleure musique et de la meilleure photographie. Voilà, donc, excusez du peu, un Oscar pour Robert Wise, et bien évidemment, dans 24 notes secondes, un extrait de la bande originale de ce film, West Side Story, sur Divergence FM.
Jets are gonna have their day tonight. The Jets are gonna have their way tonight. The Puerto Ricans grumble, fair fight. But if they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said okay, no rumpus, no tricks. But just in case they jump us, we're ready to mix. Tonight, we're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it up and have us a ball. They're gonna get it tonight. The more they turn it on, the harder they fall. Well, they began it, and we're the ones to stop them once and for all.
get her kicks tonight. We'll have our private little mix tonight. He's walking hot and tired, poor dear. Don't matter if he's tired, as long as he's here.
Tonight, tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight, tonight I'll see my love tonight. And for us stars will stop where they are.
Oh, if the minutes in my ghost, the hours go so slowly, and still the sky is light. Oh, moon, grow bright and make this endless day.
Coming out on top tonight. We're gonna watch Bernardo drop tonight. That Puerto Rican punkle go down, and when he's hollered uncle, we'll tear up the town.
Tonight,
we'll be it back, you boy.
You're gonna flatten him
tonight.
Good.
Right.
Tonight
one, two,
there
three.
Will be
one,
no
two, three.
Morning star.
And then we'll have us a ball tonight.
We're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it tonight.
Ça balance quand même pas mal pour un film tourné en 1961, un extrait de la bande originale de West Side Story, un film, alors on peut le dire, co-réalisé par Robert Wise et Jerome Robbins qui avait été le chorégraphe et le metteur en scène de ce musical sur les scènes de Broadway où il triompha, où il lui arrive encore de triompher, me semble-t-il, et même pas seulement sur les scènes new-yorkaises. Un film, ma foi, très réussi, il faut bien le reconnaître. Le défi était redoutable de porter à l'écran la comédie musicale de Leonard Bernstein, de Stephen Sondheim et d'Arthur Lawrence. Robert Wise, avec des moyens, il est vrai, considérable, il réussit parfaitement, servi par des acteurs et des actrices en état de grâce. Alors la vérité historique et le scrupule obligent à signaler que Natalie Wood, Richard Beimer et Rita Moreno, déjà cités, eh bien, ne chantaient pas à l'écran, c'est ma foi fort courant, et qu'ils étaient remplacés par d'illustres inconnus que je vais citer malgré tout dans 24 notes secondes, Marnie Dixon, Jimmy Bryant et Betty Want. Merci à eux, puisque c'est bien leur voix et leur charme et leur charisme musical que nous avons entendu dans cet extrait de West Side Story. Alors, Robert Wise était déjà dans les années 60 un réalisateur fort connu, mais grâce à ce triomphe, eh bien, il put tourner à peu près ce qu'il voulut dans les années qui suivirent. Alors, j'entends déjà de mauvais esprits dire n'importe quoi, mais pas du tout, il ne tourna pas n'importe quoi, puisqu'en 1962, il nous fit un mélodrame plutôt Bienvenu, 2 sur la balançoire, 2 for the Seesaw. Et en 1963, ce qui reste là encore un film d'épouvante parmi les meilleurs, je pense que beaucoup de nos jeunes générations y puisent et pourraient y puiser, puisque La Maison du Diable, The Haunting, dont on fit un remake calamiteux dans les années 90, eh bien La Maison du Diable reste encore un de ces films où on ne voit absolument rien, où il n'y a pratiquement pas d'effets spéciaux, mais je peux vous dire que vous avez peur du début jusqu'à la fin. En 1966, un genre là encore tout à fait différent, je vous l'ai dit, Robert Wise fut de ces réalisateurs éclectiques et touche-à-tout comme le cinéma américain les aime, puisqu'on le vit à nouveau dans le film de guerre, un film de guerre assez particulier, il faut le dire. Ça s'appelait La canonnière du Yangtze, et on voyait dans les rôles principaux de ce film, eh bien, rien moins que Steve McQueen, Richard Attenborough et Candice Bergen, pour un film qui était situé trouvé quelque part dans la Chine des années 30, allais-je dire, de 1930, me dois-je maintenant de préciser, où eh bien, la Chine déchirée par des guerres intestines ou un navire de guerre américain, la dite canonnière du Yangtze, remontait la canonnière, le fleuve, vous l'avez compris, pour se trouver d'une certaine manière entre les deux, c'est-à-dire dans cette situation que les Américains n'aiment guère, mais où malgré tout, ils vont souvent se frotter d'être les arbitres de conflits qui les dépassent. Alors, on pourra faire toutes les approximations contemporaines que l'on veut, mais dans les années 60, en 1966, tout à fait précisément, on s'en doute bien, c'était la guerre du Vietnam qui occupait les esprits américains, qui occupaient la scène politique. Et d'une certaine manière, eh bien, le film était une façon aussi de se positionner vis-à-vis de cette guerre du Vietnam. Une façon peut-être qui ne fut guère appréciée à l'époque, puisque le souci politique du réalisateur et de son scénariste Robert Anderson, eh bien, c'était la non-intervention. Non-intervention qui, on le sait, ne fut guère pratiquée par les Américains. Le film était un film fleuve, sans jeu de mots ou presque, près de 3 heures de projection. Cela se laissait agréablement regarder, d'autant plus que le grand Jerry Goldsmith, les fidèles de 24 notes secondes, savent de qui je veux parler et connaissent la passion que je lui porte. Le grand Jerry Goldsmith était à la partition. Je vais vous laisser écouter un extrait de la dite partition. Vous y verrez tout Jerry Goldsmith et un petit peu de Robert Wise. La canonnière du Yangtze, 1966, dans 24 notes seconde. Voilà, ça s'arrête comme ça. J'ai été aussi surpris que vous, un extrait de la bande originale de La Canonnière du Yangtze, un film de Robert Wise, une musique de Jerry Goldsmith, le tout quelque part vers 1966. Alors, j'ai oublié, je m'en excuse de vous préciser qu'avant de tourner ce film, c'est en 1965 que Robert Wise connut son plus grand succès commercial de tous les temps qu'il a eu, et ma foi, peut-être d'une certaine manière, l'un des plus grands succès commerciaux du cinéma américain, puisqu'il s'agit, je l'avais déjà cité en ainsi, de The Sound of Music, la mélodie du bonheur, avec Julie Andrews dans le rôle principal, un film, ma foi, un film niais, il faut bien l'avouer, mais avec des airs qu'on n'oublie pas, une morale, ma foi, une morale niaise, mais ma foi aussi, un film tout à fait réjouissant, avec un monsieur méchant, mais qui finit par épouser la gentille, avec des enfants tout pleins en beaux uniformes, bref, un triomphe pour Robert Wise, dont il se remit assez mal, puisque après La Canonnière du Yangtze, tournée en 1960, il se réessaya au genre comédie musicale à gros budget. Ce fut en 1968 Star, avec une fois de plus la délicieuse, l'incontestable, l'irremplaçable Julie Andrews, mais ce fut aussi l'un des plus grands bides de l'histoire du cinéma. Et ma foi, à Hollywood, fut-on le réalisateur de West Side Story, fut-on, ce n'est pas très joli, mais ma foi, fut-on le réalisateur de West Side Story ou de La Mélodie du Bonheur, eh bien, on n'est jamais que le réalisateur de son dernier film. Et si le dit dernier film n'est pas un grand succès, eh bien, après, on est cantonné à des films à plus petit budget. Ce fut le cas de Robert Wise, qui enchaîna ensuite en 1971 avec Un Mystère Andromède, The Andromeda Strain, plutôt bienvenue, une histoire de contamination bien tournée. En 1975, ce fut The Hindenburg, l'Odyssée du Hindenburg, ma foi, pas très très passionnant. Et en 1979, c'est à Robert Wise, là encore, qu'on confia la réalisation du premier d'une longue série, un film tiré d'une saga télévisée qui a connu aux États-Unis, dans beaucoup d'autres pays, mais pas tellement en France, il faut bien l'avouer, un immense et toujours pérenne succès, Star Trek, la série de science-fiction Star Trek, qui ne fut pas l'une des séries les plus longues de la télévision américaine, qui ne fut pas sur le moment l'une des plus regardées, mais qui reste bien des années plus tard, une série cultissime qui a donné lieu à un nombre innombrable de séries dérivées et qui a donné aussi lieu à un nombre innombrable, si tant est que je puisse oser cet oxymore, de films de cinéma, nous devons en être à une petite douzaine maintenant. Robert Wise, en 1979, eut le privilège et le redoutable honneur d'inaugurer la série. Ça s'appelait tout simplement Star Trek, le film. Ma foi, on aurait pu faire plus original et on y voyait tous les acteurs de la série d'origine qu'on ne voit plus maintenant dans les films qui continuent à sortir puisqu'ils sont bien vieux. William Shatner, Leonard Nimoy, mais si, bien sûr, Monsieur Spock. Comment ça, vous ne connaissez pas Monsieur Spock? Achetez ses œuvres complètes. Voilà un homme qui ne jure que par la logique et, ma foi, de temps en temps, ce serait bienvenu dans notre époque si redoutable. DeForest Kelly, George Takei, quelques autres qui sont aux États-Unis et dans d'autres pays étrangers des stars. Ce n'est pas tout à fait le cas chez nous et c'est bien dommage car Star Trek fut une des séries télévisées les plus innovantes de l'époque. Le film qui fut un gros succès commercial fut aussi un film très très cher et il déçut très largement les puristes. Il me souvient l'avoir vu dans mes, eh oui, jeunes années. Moi aussi, j'ai eu des jeunes années et j'avais trouvé ça fort ennuyeux. Plus de 2 heures de projection avec des effets spéciaux plutôt bienvenus, mais une intrigue qui se cherchait au fil du 23e siècle. Heureusement, et nous y venons, qu'il y avait la musique de Jerry Goldsmith, encore lui, qui avait collaboré d'une certaine manière à la série télévisée en signant en partie le fameux générique. Il n'était donc que logique, il n'était donc que justice qu'on retrouve Jerry aux manettes de la bande originale. Nous allons en écouter un très large extrait. Vous êtes dans 24 notes secondes, vous êtes sur Divergence FM, donc vous êtes bien, forcément. Voilà, 24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui. C'était trop court. Au revoir, à bientôt. Bye bye and see you.